Bonjour, c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve pour mon émission Alice et vous, chaque vendredi de 17h à 18h. Pour notre rendez-vous de cette semaine, nous allons aborder le thème de l'amour inconditionnel afin de définir ce dont il s'agit exactement. Et je suis certaine que Jennifer, qui est à mes côtés, va me poser une multitude de questions pour vous aider à comprendre ce qu'il en est vraiment. Bonjour Jennifer.
Bonjour Alice. Aujourd'hui, un thème qui va faire résonance à beaucoup d'entre nous, puisque on va dire que l'amour passe par cette étape-là, et on va voir tous les aspects de cette définition, puisqu'aujourd'hui, nous allons aborder donc l'amour inconditionnel. Il y a les conditions et il y a l'inconditionnel. Ça veut tout dire en même temps, mais grâce à vous, Alice, nous allons pousser la porte de ce cabinet afin que nous puissions en savoir un petit peu plus. Alors, on commence comme d'habitude. Déjà, dans cette émission, jusqu'à 18h, nous sommes ensemble. Une heure de psychanalyse façon Alice, avec toute la douceur que vous connaissez maintenant. L'amour inconditionnel, sa définition, Alice.
Alors, qu'est-ce que l'amour inconditionnel ? C'est le partage donc, d'un sentiment d'amour sans condition, c'est-à-dire qu'on aime quelqu'un en toutes circonstances, et c'est vraiment cette notion d'amour sans limite. Alors, bien sûr, lorsqu'on entend, on va dire, ce mot, sa signification, ça peut vraiment faire aimer. On a l'impression qu'on parle d'un amour pur, parfait, qui pourrait être issu, on va dire, d'un beau roman à l'eau de rose. Mais aujourd'hui, ce que nous allons traiter ensemble, c'est finalement, est-ce qu'il existe réellement cet amour ? Dans quelles relations on peut le retrouver et surtout, quelles peuvent en être ses conséquences.
Presque vous êtes en train de nous faire une désillusion, Alice. Franchement, vous êtes en train de briser nos rêves. Pourquoi l'amour inconditionnel ? Alors, on va le voir. Avant d'aller peut-être dans celle qui concerne le couple, on va voir qu'elle n'est pas dédiée justement qu'à cette relation.
Tout à fait. Alors, cette relation d'amour, on va dire, existe entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et effectivement, ce qu'on a dit dans les relations de couple. Mais ce qu'il est dit chez nous, les psychothérapeutes, les psychologues, les psychanalystes, c'est que cette notion d'amour inconditionnel n'existerait et ne devrait exister que dans les relations parents-enfants. C'est-à-dire que, en effet, lorsqu'on devient parent, lorsqu'on est bienveillant, on va dire fonctionnel et équilibré, quelque part, nous ne devons rien attendre d'un enfant. C'est de l'accepter tel qu'il est pour pouvoir l'accompagner au mieux dans sa vie sans espérer avoir le moindre retour, on va dire, possible.
Alors, on a envie de dire, on ne mesure pas l'amour qu'on a pour un enfant, Alice, n'est-ce pas ? Mmh. Quand on pose les yeux la première fois sur cette petite être qui vient d'arriver, forcément, cet amour inconditionnel prend tout son sens. Il est explosif, exponentiel, sans limite. Du coup, on se dit qu'il n'est pas néfaste, puisqu'il est inconditionnel, pour l'amour entre un parent et un enfant.
Alors, tout à fait. Il n'est pas néfaste, il est même plutôt bon pour un enfant. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, consciemment, selon l'histoire de l'enfant, selon l'histoire du couple, lorsque tout se passe bien, comme on dit, c'est l'aboutissement, on va dire, de cette belle relation d'amour que nous avons avec cette personne que nous aimons. C'est ce que nous voulons consciemment, mais inconsciemment, quelles sont les projections de certains parents par rapport à leurs enfants ? À travers toutes les émissions qu'on a déjà pu faire, nous avons pu constater que certains parents, on va dire, essayent quelquefois de revivre à travers leurs enfants, projettent une vie meilleure qu'ils ont pu peut-être avoir, et quelque part ont besoin d'assouvir leurs désirs irréalisés à travers leurs enfants. C'est ce qu'on a pu retrouver en c'est léger, mais en
ça
termes...
fait partie de l'amour inconditionnel, cette attente-là ?
Non, justement non. Même si consciemment, je pense aimer quelquefois mon enfant de façon inconditionnelle, si j'ai une projection de cette façon-là, ça veut dire que j'ai une attente de combler mes besoins qui n'ont pas été, combler cette espèce de vide. Et là, effectivement, l'amour inconditionnel sera biaisé.
Alors, j'entends ce que vous dites, hein. C'est presque de dire, de se voir trop à travers la relation de ce que l'on est à travers son enfant. On a tellement peut-être d'espoir que nous n'avons pu assouvir, c'est en quelque sorte ça. Et du coup, de les retransmettre à travers cet enfant, c'est vrai que c'est peut-être trop de pression inconsciente.
C'est finalement avoir une attente.
Oui,
s'espérer un retour.
Alors, si on prend la situation inverse, là, on parle uniquement de la relation de parent à enfant. Mais si on fait le sens inverse, l'amour inconditionnel est presque aussi normal dans l'autre sens. Enfant-parent.
Alors,
elle grimace.
Là, je pense
vous
que
la voyez pas, mais elle grimace, chers amis.
Je vais commencer à vous perturber, là, Jennifer. Parce que pour se construire, ce que l'on a déjà vu, c'est que l'enfant a besoin d'être objectif vis-à-vis aussi de ses parents. Quelque part, on pourrait dire que c'est un amour inconditionnel que de voir les failles, les qualités et accepter ses parents tels qu'ils sont. Mais l'enjeu est complètement différent. Parce que quand on devient parent donc d'un enfant, nous sommes là pour construire l'enfant. Mais lorsqu'on inverse la situation, lorsqu'on est un enfant, on arrive sur Terre, on n'est pas armé et on doit se construire à travers ce parent. Donc il y a tout ce qui va se jouer en termes de cette construction psychique, identitaire, de cet attachement. Et quelquefois, certains enfants peuvent ne pas aimer leurs parents de façon inconditionnelle. Si vous saviez le nombre d'adultes que je peux recevoir en cabinet, me dire qu'ils n'aiment pas leurs parents, c'est tout à fait possible. Et je vais peut-être être choquée, mais effectivement, en tant qu'enfant, on a le droit de ne pas aimer son parent ou ses parents.
Ça paraît choquant, hein, véritablement. Ah, c'est vrai que ça paraît choquant, surtout improbable, une situation comme celle-là, de se dire qu'un enfant, en dehors vraiment d'avoir reçu un traumatisme, quelque chose d'irréparable, que ce rejet comme ça d'un parent, ça paraît inconcevable, Alice.
Alors effectivement, ça peut arriver jusque-là lorsqu'il y a eu trauma, lorsqu'il y a eu parents malveillants, dysfonctionnels, où l'enfant finalement n'a pas pu peut-être compter sur son parent ou recevoir l'amour qu'il aurait aimé avoir de son parent.
C'est une déception en quelque sorte.
Tout à fait.
Mais là, quand on se dit qu'il n'a pas reçu l'amour qu'il aurait espéré, c'est un peu vague quand on dit ça, Alice, parce que alors quel est le quota de cet amour qu'on imagine recevoir? Parce que le parent, peut-être, il imagine bien faire.
Mm-hmm. Alors quand je dis, alors il n'y a pas de quota, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de normalité, c'est en fonction des besoins de l'enfant. Ce sont des enfants devenus adultes qui ne sont pas sentis sécurisés, qui n'ont pas senti de parents bienveillants et quelque part n'ont pas pu être guidés par eux ou soutenus par eux. C'est-à-dire que lorsqu'on a des parents qui sont perturbés psychologiquement, bien sûr qu'en tant qu'enfant, on va les aimer, nos parents. Mais c'est en devenant adulte qu'on doit, à un moment donné, ou qu'on ne puisse pas faire autrement, soit d'être en rupture avec eux, ou soit d'accepter que ce ne sera jamais, on va dire, bon pour nous. Et à partir de ce moment-là, certains adultes disent « moi, mes parents, finalement, oui, à part me mettre au monde, ils n'ont rien fait d'autre pour moi ».
C'est
peut-être
dur, hein.
Détruite. Bien sûr que c'est dur.
C'est très dur comme parole. Mmh. Alors quand vous dites même détruit, qu'un enfant se sent détruit, c'est vrai qu'on imagine le pire et pas juste de ne pas avoir reçu l'amour qu'on espérait. C'est vrai que peut-être que ça paraît très maladroit chez les parents d'entendre ça, de dire écoute, j'ai peut-être pas fait attention, j'ai peut-être pas bien fait les choses. Mais comme on se dit que cet amour normalement est naturel, logique, donc, et qu'il n'a pas de normalité, ce que vous disiez, Alice. Alors, on ne peut pas dire on aime fois 10, fois 20, y a pas, c'est compliqué, vraiment, d'être dans la bonne position pour
tout
déculpabiliser un petit peu les parents.
Mais partons du principe qu'un parent qui se remet en question est un bon parent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle de ces personnes dysfonctionnelles qui n'ont pas la capacité à faire autrement, à penser autrement et à se dire que oui, ça aurait pu être différent. Je parle vraiment de ces dysfonctionnements-là.
Alors, je vais faire juste une parenthèse, Alice, qu'on n'avait pas prévu, mais et on va revenir sur la relation d'un amour inconditionnel. Mais j'ai vu justement par rapport à ce qui paraît logique entre un enfant et un parent d'avoir cet amour inconditionnel, surtout lorsqu'un parent reçoit cet enfant, cette vie dans ses mains. Mais on voit que finalement, c'est pas toujours logique. Qu'il y a des parents, des pères ou des mamans qui ne ressentent pas cela sur une période ou toujours. Est-ce que du coup on est complètement à l'inverse de l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est normal?
Alors on part du principe que nous sommes peut-être censés en tant que femmes d'avoir cet instinct maternel, mais effectivement il ne se développe pas chez tout le monde. Comme certains pères peuvent avoir cet instinct de protection, d'autres non. Donc on va dire de façon naturelle, vu que nous les femmes, on va dire nous sommes outillés biologiquement parlant, corporellement parlant, pour accueillir un enfant, il serait censé de dire qu'il est naturel d'être bienveillante et de justement connaître cet amour et de le développer pour lorsqu'on a un enfant qui vient au monde. Donc oui, j'ai envie de dire, nous ne le développons pas toutes de la même façon et il est de l'ordre du dysfonctionnement de ne pas être capable, hein, je parle de capacité psychique, hein, d'aimer et d'être bienveillant vis-à-vis de son enfant.
Non, parce que j'ai vu un récent article où il était évoqué que, par exemple, une maman, elle est tombée enceinte, elle a désiré cette grossesse, etc. Mais le jour où cet enfant est arrivé dans la vie de ce parent-là, le regretter, se dire « mon Dieu, j'ai fait la plus belle bêtise de ma vie, je ne suis pas fait pour être parent ». Donc là, du coup, on est à l'opposé de l'amour inconditionnel. Ah,
oui, on est dans le rejet.
On est dans le rejet. C'est peut-être qu'une période aussi.
Tout dépend de l'histoire de la personne, on va dire. Et là, bien évidemment, je dirais, il est urgent d'aller se faire... Alors, quand je dis d'aller se faire aider, de comprendre surtout ce qui se joue...
Oui, on n'est pas en train de dire qu'il y a une tare ou la personne n'est pas normale. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Hein.
Tout à fait. Dans quelles conditions ce bébé est arrivé, même si on l'a souhaité, qu'est-ce que ça vient dire de nous? Et surtout, là, on est obligé d'aller dans ce qui se joue dans le niveau transgénérationnel.
Oui, non, mais c'était une parenthèse comme ça, parce qu'on est vraiment, du coup, là, dans l'opposé de l'amour inconditionnel. Alors, cet amour inconditionnel... On est dans la relation parent-enfant, on dit qu'il n'est pas finalement néfaste ou il peut quand même avoir un côté négatif.
J'ai envie de dire qu'il est important d'être dans cet amour, surtout dans la phase d'enfance de l'enfant. Après, le questionnement est, là je pense que nous sommes peut-être tous plus ou moins posés à la question, lorsqu'on regarde des films, on voit des documentaires ou autres, admettons lorsqu'on a un enfant finalement qui devient un criminel, qui devient un abuseur et que nous voyons ses parents qui protègent l'enfant, là c'est la question qui se pose. Là on est sûr, on est dans l'amour inconditionnel, et finalement quelle est la meilleure des positions? Est-ce que comme c'est notre enfant, nous devons le protéger coûte que coûte
et, accepter,
et défier la loi? Ou est-ce qu'au contraire, pour son bien-être, il est important qu'il se fasse recadrer par la loi? Vous voyez, il y a...
C'est dur, hein.
C'est dur, hein. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger, on va dire, qui que ce soit. Mais c'est réellement ce qui se joue.
Oui, c'est dur. C'est vrai que malheureusement, des personnes sont passées dans ces situations-là où, évidemment, l'amour inconditionnel, à quel prix? Au prix d'accepter... la gravité des actions d'un enfant, de ne pas dénoncer. C'est vrai que l'amour, c'est vrai qu'il peut prendre
d'autres proportions. Parce que dans l'amour inconditionnel, il y a vraiment le fait de pardonner les erreurs, de vraiment tout accepter. Donc effectivement, je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi c'est important et qu'est-ce qui se joue dans l'enfance, pour que cet amour soit vraiment développé, pour que cet attachement de sécure arrive. Mais finalement, c'est la question qu'on peut se poser en tant que parent d'enfant devenu adulte. Qu'est-ce qu'il en est et jusqu'où pouvons-nous aller?
Eh oui, les limites. Là, c'est vrai, je n'aimerais jamais vivre une telle situation parce que quelque part, on se doit vis-à-vis de la loi de répondre un délit causé
suprême,
par son enfant
finalement,
exactement. Et en même temps, l'amour d'un enfant, la trahison, on se sentirait dans ces situations là vraiment très très compliquées. Alors là, c'est vrai que l'amour inconditionnel prend tout son sens. L'amour inconditionnel aussi, dans l'autre sens, il peut être aussi Alice, de dire alors là on parle pas de crime, mais de dire d'accepter en tant qu'enfant tout ce qui peut venir de son parent et l'excuser de parfois de comportements peut-être un peu trop oppressants ou tout.
Alors,
cela.
Bien sûr, les parents ne sont pas parfaits, heureusement, mais c'est de... Je réfléchis par rapport à cet amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'un enfant doit tout accepter de son parent si son parent est malveillant? Ou est-ce que je veux dire, là, je suis désolée, j'en allais encore dans les cas extrêmes.
Extrême, oui, on est dans l'extrême.
Je suis vraiment désolée, mais si on a un parent qui a abusé de nous et qui continue à abuser physiquement et ou psychologiquement de nous, est-ce qu'on est censé l'accepter aussi? Vous voyez?
Non, là, on est vraiment dans l'impensable, ce qu'on n'a vraiment pas envie d'imaginer pour qui que ce soit, évidemment, mais... Malgré tout, on le voit que même si des enfants ont subi l'impensable vis-à-vis de leurs parents, l'amour est toujours présent.
Voilà. Bah, bizarrement. Après, c'est ce qu'on avait évoqué lors d'une précédente émission, de dire finalement, ce sont peut-être les personnes qui ont eu les parents les moins sécurisants qui ont plus de mal à se défaire d'eux.
Bien sûr.
Ce qu'on avait traité.
Là, moi, je pensais, par exemple, à des situations un peu plus, on va dire, ordinaires, où il y a des parents un petit peu oppressants qui veulent vraiment beaucoup interagir dans notre vie, sur lesquels fais ci, fais là, sors avec cette personne-là, va travailler comme ça. Vous voyez, vraiment beaucoup d'implications, d'impositions dans notre vie. C'est là où je dis peut-être que l'enfant accepterait tout.
Oui, après tout dépend, où est-ce qu'on en est dans la famille, est-ce qu'il y a ce schéma familial, ou est-ce qu'on est dans une famille patriarcale, matriarcale, est-ce qu'on se doit de rejouer le roman familial et finalement ne pas s'autoriser à faire autrement que ce que la famille nous impose. Évidemment, ça pourrait être ça aussi, comme vous dites, un amour inconditionnel.
Cet amour inconditionnel, mais quand on est parent, Alice et enfant, on se dit que c'est normal cet amour qui soit fusionnel comme ça, exponentiel, sans limite, vraiment, plein de passion, et on a tellement envie d'apporter à son enfant le meilleur, et à n'importe quelle hauteur, ça, il n'y a pas de limite. Dans cette relation, Alice, que peut-on nous rajouter dans la relation parent-enfant ?
Alors, ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, c'est très important que l'enfant le connaisse au début de sa vie, pendant sa phase de construction. C'est la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'attachement sécure pour que l'enfant, en tant qu'enfant puis en tant qu'adulte, puisse avoir confiance en lui pour pouvoir explorer le monde et surtout pouvoir se mettre facilement et de façon saine en lien avec les autres. Ça, c'est important. Ça offre quoi finalement cet amour inconditionnel ? Ça offre de la stabilité, cette sensation de protection et de sécurité qui va être en nous tout au long de notre vie. Parce que si on n'a pas cet amour inconditionnel dès le début, si l'enfant capte que pour être le plus aimé de papa ou de maman, ils doivent répondre à ses attentes, là on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Et là, les ravages peuvent arriver dans la vie d'adulte.
C'est quelle relation, là, du coup ?
C'est quelle relation ? Ce sont des enfants qui, plus adultes, qui s'adaptent, qui vivent à travers le regard des autres, qui n'arrivent pas à faire de choix personnels et qui ont un manque de confiance en eux, puisqu'ils attendront toujours l'approbation de l'autre. Et en tant qu'adulte.
Comme quoi, ça peut avoir toujours des conséquences. Mais vous nous mettez des pressions, Alice, je vous promets.
Alors, le but de cette émission, pareil, ce n'est pas de vous mettre une pression, c'est pour dire que oui, il existe, oui, il est beau cet amour entre parents et enfants. Il y a du bon dans cette relation-là, mais ça sera surtout après dans la partie relation de couple que je voudrais mettre les personnes au clair par rapport à ce qui se joue et ce qui doit peut-être se jouer pour que ça se passe pour le mieux.
Bon, en même temps, vous nous permettez de comprendre justement l'importance des bases, des fondations dans la relation parent-enfant, parce que c'est vrai que beaucoup de choses se jouent dès le départ dans la construction de l'enfant qui aura des conséquences dans sa vie future.
Tout à fait. Et j'ai envie de vous dire aussi, Jennifer, un amour inconditionnel n'est pas égal à amour parfait. Vous voyez, quand vous me dites oui, vous mettez la pression. Non, je ne dis pas il faut qu'on soit un parent parfait pour aimer de façon inconditionnelle un enfant. Non, c'est juste être bienveillant, faire le mieux que l'on puisse faire avec ce qu'on est, avec comment on est construit. Et être bienveillant, c'est oser se remettre en question et oser savoir s'excuser et se dire que peut-être cette fois-ci, on n'a pas été top, on fera mieux la prochaine fois. Et le tout, c'est de le communiquer à l'enfant. Voilà, c'est ça être un parent bienveillant.
Ça va mieux. Ça me va bien. Allez, donc Alice.
Du coup, pour la suite, j'aimerais bien vous dire ce qui peut être important de mettre en place dans leur relation pour que l'enfant puisse connaître et ressentir cet amour inconditionnel.
Allez,
je vous dis vraiment dans la théorie ce qui serait l'idéal. Hein.
D'accord. Okay. Donc, sans pression, on est bien d'accord.
Sans pression. Premièrement, écoutez, ça va être plutôt facile et tendre, c'est de dire à nos enfants qu'on les aime. Le verbaliser.
Et c'est pas toujours. C'est peut-être la première chose que vous êtes en train de dire, mais je pense que ce n'est pas la plus facile.
Non, parce que selon les modes de communication, selon les schémas familiaux, certaines personnes peuvent être pudiques, peuvent avoir du mal à communiquer, on va dire, leurs émotions.
Et oui.
Ils peuvent être bloqués rien que dans le fait de dire peut-être je t'aime à son enfant.
On est bien d'accord.
Voilà.
Ça peut être très compliqué. Oui,
mais sachez que si on n'a pas pu le faire dès les premiers mois de la naissance de l'enfant, il n'y a pas que le verbal, il y a le non-verbal. Je veux dire, j'ai certaines personnes qui me disent disent bah ouais, papa ou maman ne me l'ont jamais dit, mais à travers leurs actes, je suis sûre qu'ils m'ont aimée. Vous voyez ?
Bien sûr.
On fait comme on peut avec ce que l'on a.
Oui, alors parfois c'est vrai qu'en plus, souvent les actes valent mieux que les mots, parce que parfois des personnes ont du mal à s'exprimer, c'est vrai, à dire ce mot « je t'aime » qui a un sens. D'autres le disent assez facilement et pourtant parfois ne vont pas exprimer justement tout l'intérêt de ce mot-là.
Tout à fait.
À travers leurs actes, justement. Mmh. Et c'est bien parfois, de se positionner dans sa vie d'enfant, même en étant adulte, et de se dire « bon, peut-être que je ne l'ai pas souvent entendu, voire jamais, mais qu'ont fait mes parents ?»
Finalement.
Qui ont prouvé peut-être qu'ils m'aimaient sans le dire.
Leur amour autrement, tout
voilà.
À fait.
Donc voilà. C'est vrai que c'est voilà, pareil, encore une fois, de ne pas culpabiliser les personnes qui ont du mal à le faire, mais qu'à travers leurs actes, cela peut s'exprimer, c'est tout aussi bien.
Peut-être. Mais tout à fait, c'est déjà ça.
C'est déjà
donc
ça.
On prend ce qui est positif.
On prend ce qui est positif, toujours, Alice.
Voilà. Après, lorsqu'on est parent d'une fratrie, lorsqu'on a plusieurs enfants... Je sais que ce n'est pas facile, mais il est important aussi de ne pas comparer les enfants. C'est vrai que très souvent, à tort, il peut être facile de dire « regarde ton frère, regarde ta sœur, il se comporte ainsi » ou « c'est plus facile avec lui, avec elle ». Et ça, on le sait, c'est destructeur malgré nous pour les enfants. C'est vraiment important voilà, de se sentir
supérieur un être... ou inférieur à son...
C'est ça. Et de ne pas être comparé, c'est finalement se ressentir être un être unique à part entière et pas identifier forcément un groupe. Donc ça, c'est important pour la construction de l'enfant, justement, pour le fait de se sentir sûr de soi et pour la mise en place de la confiance.
Dans cet amour inconditionnel qu'il y a entre parents et enfants, justement, quand il y a une fratrie, Alice, est-ce qu'il est normal, encore une fois, on va dans la normalité des choses, du bien-pensant, de se dire, on aime trois enfants de la même manière, est-ce que c'est normal ou, dans l'autre sens, est-ce qu'il est plus normal d'avoir quand même... peut-être un peu plus de sentiments importants pour un enfant. Peut-être parce qu'il nous ressemble ou parce qu'il nous attire plus par rapport à un comportement, je ne sais pas.
Question très intéressante. Alors, moi, je pense que nous aimons tous nos enfants, quand on est deux, trois ou quatre, aussi fort les uns que les autres. Mais après, les relations, les modes de communication peuvent être plus simples et plus fluides avec certains d'entre eux. C'est pas parce que c'est plus facile qu'on les aime plus. Vous voyez, l'amour est là, nous mettons en place des liens différents selon nos enfants parce qu'ils sont tous différents. Et après, ce sont des modes de communication qui diffèrent parce que, comme je vous l'ai dit, en tant que parents, nous devons nous adapter à qui est notre enfant finalement. On va faire connaissance avec lui. Comme je le dis régulièrement, nos enfants ne sont pas censés être des mini-moi. Et comme je le dis aussi, nos enfants, toute notre vie, de toute façon, nous font travailler sur nous-mêmes. Donc c'est accepter qui il est, on les aime pour moi, je pense qu'on les aime aussi fort, mais quand on dit différemment, c'est par un mode de communication, de lien, qui ne peut pas être, on va dire, identique pour tous les enfants.
Oui, c'est vrai que parfois ça se ressent, ça se voit, où il y a un parent qui peut exprimer cela en disant « j'ai plus de feeling avec tel enfant ou tel enfant parce que on a des cohérences sur certaines activités, sur des manières de penser, plus facile dans l'éducation, lui m'a moins embêté qu'un autre qui était plus virulent,
c'est
plus
ça.
Difficile. »
Puis donc... après la question du sexe, la relation mère-fille, mère-fils, aussi. Père-fille, père-fils, ça ne joue pas du tout de la même façon. Donc en fonction de ce qu'on a vécu, de qui on est, certaines mamans ont plus affinité avec leur fils qu'avec leur fille. Admettons, ça retient une relation difficile avec leur propre mère, ça peut être compliqué pour elles de mettre en place un lien apaisé avec leur fille, par exemple, etc. etc. Donc je pense que l'intensité est la même et après c'est juste les affinités et les modes de communication qui diffèrent.
Bon, attention en tout cas, c'est vrai de ne pas faire ce comparatif, le deuxième conseil que vous donniez, Alice, dans cet amour inconditionnel parent-enfant, voilà, de ne pas faire le comparatif entre un des enfants de la fratrie, entre l'un et les autres, ça peut être, oui, effectivement, destructeur. Donc, premier conseil, c'était le dire de ce, voilà,
dire
le je
qu'on
t'aime,
les aime.
Voilà, le dire qu'on les aime. Deuxièmement, pas faire de comparaison. Le prochain conseil.
Après, dans la théorie aussi, ça serait de leur consacrer du temps. Voilà, leur consacrer du temps. Je ne parle pas forcément en termes de quantité, mais en termes de qualité. C'est-à-dire que lorsque nous sommes avec nos enfants, de nous dire nous sommes disponibles pour eux à ce moment-là. Quelquefois, selon les vies que nous avons, selon nos professions, les rythmes, peut-être qu'on ne peut pas être autant qu'on le voudrait avec nos enfants, mais au moins le peu que nous puissions être avec eux,
consacré, c'est
d'être
à eux complètement.
Totalement à eux, avec eux. Voilà. un exemple qui n'est pas très, très agréable et qu'on constate aussi quelquefois quand il y a certaines femmes au foyer. Je sais que ça peut être compliqué d'être toute la journée avec son enfant parce qu'on peut manquer d'oxygène, mais à force de quelquefois d'être toujours et trop ensemble, comme je dis, on passe à côté de la relation, c'est-à-dire on ne trouve plus le bénéfice, on ne trouve plus l'intérêt et on est dépassé par la situation.
Et pourtant, on est toute la journée ensemble.
Voilà, si l'enfant dort mal, si l'enfant mange mal, c'est compliqué. Si nous, on a une vie compliquée à ce moment-là, on peut, même en étant ensemble toute la journée, finalement être l'un à côté de l'autre sans être avec l'autre. Vous voyez, après ça c'est autre chose, mais quand je vois qu'aujourd'hui moi c'est bon, quelque chose qui est bon, mais moi qui me choque, c'est quand on met en place des ateliers parents-enfants pour que les parents réapprennent à jouer avec les enfants dans un cadre hors de la maison. Oui, ça se développe énormément, justement dans le sens où on a des vies, on va dire, complètement quelquefois disloquées en termes de temps et de disponibilité. Donc oui,
juste parenthèse, vraiment Alice, ces ateliers ça se passe où?
Dans des associations. D'accord. Dans beaucoup de au niveau de la parentalité. Moi je sais qu'à sur la Ciotat, ça se fait beaucoup, j'ai entendu parler sur Marseille. D'accord. C'est une association pour justement que les parents puissent se retrouver avec leurs enfants, créer ces moments-là. Donc on va dire oui, c'est bien, c'est bénéfique, mais moi ce qui m'interpelle, mais c'est pourquoi on est obligé de passer par une association pour pouvoir le mettre en place. Vous voyez quand
ça met en avant un mal-être ou un malaise qu'il y a dans cette société aujourd'hui, parce que alors c'est bien que ces associations permettent de recréer cet événement, ce moment-là qui peut-être n'existait plus du coup chez la relation parent-enfant, mais c'est vrai que se dire qu'on est obligé d'en arriver à un intermédiaire comme quelque part vous aussi en même temps pour arriver à recréer ces relations, c'est vrai que ça paraît inconcevable, mais c'est vrai, quand on passe parfois, si on prend les exemples de ces activités, parfois on se dit, on est avec notre enfant, mais d'un coup le téléphone sonne. Ah, d'un coup, j'arrête de jouer avec toi deux secondes, je vais parler, après je reviens.
Après on a tous nos portables, aujourd'hui on est vite happé pour le professionnel ou pour le personnel. Je veux dire, un enfant, vous savez, combien de fois j'observe quand on est, admettons, au restaurant, que je vois un enfant, fille ou garçon, qu'avec le père ou la mère, et que tout le long du repas, le père ou la mère est sur le portable et sur le téléphone, et qu'ils se disent partager un moment avec un enfant, et qu'on voit l'enfant quelquefois qui est dépité ou qui est sur son écran, là, on n'est pas dedans, quoi.
Bon, de toute manière, c'est vrai que c'est, je pense, le mal du siècle. Hein.
Mais complètement. Je ne juge personne. Hein. On est tous happés dans nos vies.
Mais c'est vrai que c'est un constat quand asseyez-vous, à moins que vous êtes concerné aussi, mais asseyez-vous dans une terrasse de café ou dans un restaurant et vous voyez même couple ou enfant, parents, qui ne communiquent plus et qui sont juste nés pointés vers le téléphone et qui sont dans leur monde numérique. Uniquement et qu'il n'y ait plus d'échange, c'est vrai que ça fait peur. Mais malheureusement, ça existe. Et c'est vrai que forcément, le temps consacré réellement à l'enfant, même si on a passé 2 heures dans ce repas,
ça n'aura pas de sens.
Il n'a pas de sens.
Voilà. Donc c'est pour ça, quand je dis privilégier peut-être la qualité plutôt que la quantité, s'il est difficile pour vous de vous dégager réellement du temps. Même si vous prenez 1 heure par semaine avec votre enfant, soyez avec lui entièrement 1 heure par semaine. C'est ce que je dis aux parents. Quelquefois, si on parle des garçons et des petites filles, n'importe quoi, qui aiment jouer au Playmobil, au Barbie, c'est accepté, ou un jeu de société. Ou même si on a nos enfants aujourd'hui qui sont derrière leur écran, c'est de s'intéresser à l'enfant, de dire ok, au lieu de passer son temps à tout le temps râler, dire arrête, coupe tes écrans. Déjà, souvent, on ne montre pas l'exemple, mais c'est de s'intéresser à ce que fait cet enfant derrière cet écran. Est-ce qu'il joue? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce qu'il est dans la création? Est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux? Parce que, je ne sais pas, il suit un groupe, il a monté quelque chose dans ce sens-là.
Quelque chose qui le passionne, admettons.
Renseignons-nous. Voilà, ça aussi, c'est être en lien et de...
Et s'intéresser à son enfant.
Et d'être présent. Voilà, pour son enfant.
Exactement. Donc,
tout à fait.
Troisième conseil, prenez du temps, mais du temps en réel, même s'il est court, mais qu'il soit pas quantitatif, mais qualitatif. On l'a bien évoqué. Un autre conseil, Alice ?
Communiquer.
Voilà. De toute façon, ça, c'est la base.
Hein, c'est la base.
Je crois que dans toutes les émissions qu'on a faites, c'est ce que vous évoquiez.
C'est ça. Alors, quand je parle de communication, c'est pas forcément demander qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui à la cantine ou est-ce que tu as beaucoup de devoirs. C'est de oser, de temps en temps, demander à son enfant comment il va. Voilà. Lorsqu'on le voit un peu perturbé ou un peu différent, si cet enfant n'ose pas ou ne veut pas nous dire ce qui se passe, c'est de dire je trouve qu'en ce moment, tu es un petit peu énervé ou tu es un petit peu agressif ou agressive. Sache que je l'ai repéré. Je suis à ta disposition là si tu en as besoin. Et la communication aussi dans l'autre sens, c'est en tant que parent, oser poser ses émotions vis-à-vis de son enfant. Il y a des moments de vie qui sont peut-être plus difficiles que d'autres. Oser dire que nos enfants, en ce moment, on est peut-être fatigués, on est perturbés par des événements et que ça va aller mieux. Voilà.
Bien sûr.
C'est toujours communiquer, moi je dirais, dans la sincérité.
Dans la sincérité, dans la transparence, de dire « excuse-moi, en ce moment, peut-être que je ne vais pas bien, mais c'est parce que je passe par cette phase-là, sans expliquer peut-être des choses qui ne sont pas audibles pour un enfant et compréhensibles. » Mais en même temps, d'être transparent, de dire « je suis désolée si en ce moment je suis moins agréable, mais c'est parce que je traverse ça. »
Parce que l'enfant va sentir aussi qu'on lui porte de l'intérêt, qu'on lui fait confiance. Donc ça, c'est important pour sa construction personnelle.
Un autre conseil, Alice.
Ensuite, je dirais distinguer clairement le comportement. Alors, je m'explique. Pas parce qu'un enfant fait quelque chose de mal ou de mauvais qu'il est foncièrement mauvais. Peut-être que cet enfant a agi ainsi parce qu'il avait peur, parce qu'il était plein d'angoisse, et que peut-être qu'à un moment précis, il a un comportement un petit peu irraisonné, bizarre ou pas acceptable par la société, s'il a dérogé certaines règles. Ça ne fait pas de lui un mauvais enfant. Et ça, c'est important de le poser, parce que je vois combien d'adultes, finalement, qui n'osent pas être eux-mêmes vis-à-vis de leurs parents, avec cette peur inconsciente, finalement, d'être un mauvais enfant, de ne plus être l'enfant idéal ou l'enfant parfait. C'est de dire « ok ». T'as peut-être exagéré ou effectivement ce n'est peut-être pas top ce que tu as fait à ce moment-là, à ce moment précis, mais on essaye de décortiquer ensemble, voir ce qui s'est passé. Voilà, pas parce que tu fais une bêtise que t'es un mauvais enfant. Allons voir. Alors évidemment, là je vous parle pas de bêtises d'un enfant de 4-5 ans qui a envie d'expérimenter, d'explorer le monde, voilà, puisse faire. Ça se joue plutôt quand l'enfant grandit. Avant l'adolescence, pendant l'adolescence, voilà, pas parce que tu fais quelque chose qui n'est peut-être pas bon, que toi, tu n'es pas bon au fond de toi. Ça, c'est important aussi que l'enfant le ressente. Hein.
Oui, de pas le culpabiliser, de pas de suite réprimander, vous voulez dire, et
c'est
comprendre.
Ça.
Alors après, souvent, je sais que c'est une idée qui ne plaît pas à tout le monde, de l'entendre dire qu'à un moment donné, à force de trop vouloir comprendre, admettons, parce qu'un enfant a commis même parfois d'actes, un vol ou de violence avec un camarade, de toujours vouloir chercher à comprendre, d'excuser, de dire que ça remplace les comportements d'anciens parents qui, eux, étaient beaucoup plus à réprimander, punir, voire claquer, et disaient ça, c'était mieux avant, parce qu'aujourd'hui, regardez la génération, ce qu'elle est devenue.
Alors, c'est bien que vous souleviez cette situation, parce que être bienveillant, aimer son enfant, ce n'est pas ne pas le cadrer. Je veux dire, un enfant doit être cadré et on peut le cadrer avec bienveillance. Un enfant, comme vous dites, qui commet un vol, s'il y a vol, il y a sanction, ok ? Mais après, on essaie de voir ce qui s'est passé, quelle était la pulsion de l'enfant, est-ce que c'est prémédité ou pas, qu'est-ce qu'il a ressenti et quel a pu être son besoin. Alors oui, j'entends déjà la réponse oui, mais vous croyez qu'un enfant de 6 ans ou un enfant de 10 ans va savoir ? Non, mais simplement le faire s'interroger. Voilà, dire peut-être qu'il a commis ça dans sa vie, est-ce que c'est la première fois ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire de lui, quel est son besoin. Et si l'enfant ne peut pas le communiquer, à nous, après, en tant que parents, d'essayer de comprendre ce qui se joue. Vous voyez ce que je veux dire?
Non. Moi, je comprends, Alice, mais je sais que à l'oreille de certaines personnes, ça va pas avoir le sens escompté, parce que je vous dis, comme il y a cette génération un petit peu insouciante, inconsciente, qui est là à plus respecter les codes, du coup, on se dit, voilà, c'est une mauvaise génération parce que les parents sont de mauvais parents, ne posent plus de limites. Voilà.
C'est ça. C'est pas parce qu'on est... La bienveillance, l'écoute n'est pas égale nos limites. Et j'ai envie de dire, nous ne sommes pas dans le jugement, mais c'est bien dommage que ces personnes ne puissent pas comprendre que la rigidité n'est pas forcément la solution à tous les maux. Et chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui ont besoin d'être plus cadrés que d'autres, et d'autres qui ont besoin d'avoir un peu plus de lest. Et on est obligé de s'adapter en tant que parents.
Mais la rigidité, de toute façon, n'empêche pas la communication.
L'autorité n'empêche pas la communication. Une autorité saine, voilà, il y a un cadre à respecter. Il y a des contrats qu'on passe entre parents et enfants. T'as pas respecté les contrats, ben voilà ce qui se passe. Je t'avais prévenu. Basta. Et l'enfant est content ou pas, après, c'est son problème. Où est-ce que je veux
dire ?
Bien sûr. C'est ça aussi dont il s'agit.
Oui, donc la communication, l'écoute, de chercher à comprendre la raison de ces différents actes, n'empêche pas la punition, la rigidité. Alors, on ne parle pas de violence, hein, on parle de conséquences, voilà, par rapport à tes actes qui avaient été peut-être prévus en cas où, avertis. Mais voilà, ça n'empêche pas de dire qu'il n'y ait pas de nos limites. Voilà.
C'est exactement. Clairement, ce que je voulais dire.
Voilà, on est clair.
Et après, le dernier point Bon, j'espère qu'il sera clair pour les personnes. Comme je dis, c'est ne pas confondre amour et surprotection. Parce que quelquefois, nous sommes des parents qui pouvons avoir peur, qui voulons éviter de mettre en danger nos enfants. Donc ça part d'un bon sentiment d'amour inconditionnel et de la bienveillance. Mais nous sommes aussi là pour armer et outiller nos enfants pour la vie. C'est-à-dire qu'il est important aussi que nos enfants puissent avoir un pied dans la réalité extérieure de ce qui se joue. Moi, j'entends beaucoup de parents voilà, qui ont peur dès que leurs enfants vont à l'école, le collège, le lycée. Rien que l'histoire, quelquefois, de devoir prendre les transports en commun. Alors, je ne juge pas ceux qui le font ou ceux qui ne le font pas. Mais l'enfant a des besoins aussi. L'enfant, on va dire, doit expérimenter pendant cette phase de vie, pendant laquelle il vit avec ses parents, pour justement savoir ce qui va se passer dans sa vie d'adulte. Parce qu'un enfant qui aurait été trop couvé, on va dire... pour lequel on aurait été tout le temps à disposition, voilà, dans tous les domaines voilà, de sa vie d'enfant, ben, va peut-être se sentir complètement désappointé le jour où il devra peut-être vivre seul et rencontrer des nouvelles situations.
Bien sûr.
Voilà.
Donc... C'est sûr. Non, après, comme vous dites, Alice, on est tout à fait d'accord, c'est pas une question de transport. Alors après, il y a des parents qui peuvent se mettre à disposition, c'est pas pour autant qu'ils en feront des enfants qui seront pas autonomes plus tard. C'est pas ça du tout la question. Mais c'est vrai que, on peut entendre par cette surprotection, moi ça peut être même un cas personnel, moi je le vois par exemple, ne serait-ce qu'avec ma maman, où ma fille elle a toujours peur qu'elle tombe, donc attention ne cours pas, ne va pas trop vite, donc c'est une surprotection qui est dans la bienveillance, puisqu'à la base... C'est pour pas qu'elle tombe et qu'elle se fasse mal.
Tout à fait.
Mais alors, j'ai pas envie, moi, quand je lui dis à ma maman, je lui dis, attention, ne la surprotège pas parce que du coup, elle va pas courir comme les autres, elle va pas être autant dégourdie
elle va pas
que les
oser
autres.
Elle, voilà, expérimenter. Donc.
Alors, je lui dis, même si c'est une petite gamelle, c'est pas très grave. Voilà,
oui,
on est là.
Tout attention, dans la bienveillance.
D'accord, je lui ai pas dit de descendre une pente.
C'est ça.
Avec un vélo à pleine tête.
C'est ça. Est-ce que, voilà, et pour finir avec ce point, c'est aussi ne pas anticiper les besoins de son enfant. C'est attendre que l'enfant exprime, attendre que l'enfant ressente, ben, pour pouvoir aussi, lui, qu'il apprenne à se connaître. Parce que, bien sûr,
gérer, oui.
Voilà, en tant que parent, on voit très bien ce qui se passe quand un enfant a faim, quand un enfant a froid, etc., etc. Et on va amener même la couverture à l'enfant avant qu'il ait froid. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr.
C'est tout à fait ma maman.
Voilà.
Là, ce que vous êtes en train de
dire. En tant que, bien sûr, qu'autour d'un bébé, il le sait pas, le bébé, on va lui emmener. Oui. Mais après, c'est lorsque l'enfant grandit. On doit l'accompagner. C'est à un moment donné, si l'enfant, je dis n'importe quoi, a 10 ou 12 ans et je ne sais pas, et qu'il a froid, à 10 ou 12 ans, ben oui, c'est à froid, ben, je t'avais prévenu de descendre avec me prendre ton plaid, je ne sais pas, ou mettre telle veste, telle veste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on accompagne bien évidemment à responsabiliser au fur et à mesure, mais au-delà de la responsabilité, c'est que l'enfant puisse ressentir ses propres besoins. Vous voyez, c'est comme donner le goûter avant que l'enfant ait faim. Voilà, c'est basique. Hein. On se dit, oui, à telle heure, l'enfant doit manger.
Et oui, mais parce qu'on a tellement, Alice, qu'à 4h30, il ne faut pas être plus tard parce qu'après, il n'aura pas faim à 7h quand il va devoir manger et aller se coucher pas tard. Donc, c'est pour ça qu'on appréhende toujours ces moments-là.
Après, je prends voilà, cet exemple. Admettons, si on le prend dans le cadre d'un week-end ou autre, il y a quelques fois, les enfants qui ont moins faim, des périodes de vie où ils mangent moins. Pareil, c'est ne l'obligeons pas à manger. Admettons, s'il n'a pas faim, oui, c'est le goûter, donc tu dois manger pour pouvoir tenir jusqu'à ce soir. Mais peut-être qu'un jour ou un autre, l'enfant n'a pas forcément faim, n'a plus envie de goûter. Et quelque part, c'est renier, vous voyez, ses besoins. Et voilà, renier ses besoins et peut-être ses émotions. Ce
donc,
qui fait...
pas trop anticiper tout cela,
c'est
en
ça.
Tout cas. Voilà.
Être bienveillant, être prévenant, l'accompagner, mais aussi l'accompagner dans l'individuation, de savoir quand est-ce qu'il a froid, lorsqu'il a faim, voilà, lorsqu'il est il a le droit d'être en colère et tout ce qui va.
Bon, Alice, elle vous dit pas de le laisser ce jeu-là à moins de 10, hein. N'attendez
non,
pas ça quand
surtout
même.
Surtout pas, non, mais
je
après,
vous embête, Alice.
Qu'il apprenne la cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur et puis à l'extérieur. Quoi.
Exactement.
C'est de ça dont il s'agit.
Alors Alice, est-ce qu'on a eu tous nos conseils
dans
cet amour inconditionnel qui paraît tellement logique
de
parents à enfants? Mais alors là, on aborde l'autre partie, celle qui est toujours bien plus compliquée. Bon, quoique déjà, parents à enfants, c'est des relations assez déjà à réfléchir. Mais là, on parle celle du couple. Voilà, la relation donc dans l'amour inconditionnel entre partenaires.
Voilà,
et
tout
là,
à fait.
C'est le chaos.
Non, ça donne envie, ça fait rêver. Mais
c'est normal comme situation, Alice, quelque part. Surtout quand la relation démarre. Voilà, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, peu importe.
Relation d'amour. Voilà,
relation d'amour, là, il n'y a pas de cadre dans tout cela. C'est de l'affect. Et donc, quand on est dans cette phase de volcanisation, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais tout à fait, tout
on
à fait.
On est dans cet inconditionnel.
Voilà, il y a cette phase légitime lorsqu'on est en début de relation, où effectivement on se projette, on idéalise la relation. Et il est vrai qu'au début de toute relation amoureuse, il est logique, on va dire pour notre cerveau, d'aimer de façon inconditionnelle. Parce que là, on sait qu'on rejoue, on va dire inconsciemment, l'amour qu'on a pu recevoir de nos parents, des personnes qui ont été proches de nous, etc. etc. C'est-à-dire qu'au début, oui, il est légitime d'être dans la passion, ce qu'on appelle d'être dans l'absolu, la pureté du lien. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on est dans la découverte de cette personne, voilà, qui nous donne des papillons dans le ventre, avec laquelle on est si bien, il y a cette notion que tout est possible, que tout est acceptable, tellement on l'aime, tellement elle est belle, tellement il est beau, et que voilà, ça restera pur, ainsi et pour toute la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que...
C'est la redescente, chère amie.
Non, mais cette phase existe, on va
Alice
dire.
Est dans votre émission, et vous, voilà, Alice et vous, elle vous fait toujours redescendre de votre nuage. Voilà.
Non, je suis là pour vous aider à vous équilibrer, Jennifer. Donc, il y a cette phase qui est là, mais à un moment donné, on se rend compte que l'autre, finalement, a également des défauts, que peut-être ces défauts ne doivent pas être tant minimisés, et qu'il y a aussi cette notion de respect, de limite, qui doit être dans toute relation amoureuse, pour pas qu'il ne fasse n'importe quoi et que tout arrive dans le meilleur, mais surtout dans le pire. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on appelle notre cerveau rationnel reprend le dessus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on reste dans cet amour inconditionnel, s'il a été mis en place la question est si il y a une notion de personne déséquilibrée ou malveillante, quelque part, si j'accepte que cette personne ne me respecte pas, c'est-à-dire amour inconditionnel, c'est que je dois tout accepter. Donc tout accepter, ce sont peut-être des tromperies, ce sont peut-être des violences psychologiques et ou physiques. Ça veut dire quoi de moi ? Ça veut dire que peut-être que je ne me respecte pas. Ça veut dire peut-être que de moi que je ne m'estime pas et que ben, finalement par rapport à comment j'étais construite, par rapport à mes croyances, ben, si je veux rester dans cette relation, je dois me positionner dans cet amour inconditionnel pour être sûre que l'autre peut-être ne me quittera pas.
Là où on sent bien quand même, ça fait vraiment un ultimatum, un chantage. Là c'est vraiment le pire de l'amour inconditionnel, j'ai envie de vous dire, hein, d'accepter l'inacceptable, pour pas perdre l'autre, du coup, de se dire je l'aime à tel point que ce n'est pas grave s'il y a des choses que je n'aurais pas acceptées en temps normal, mais j'ai tellement peur de le perdre que je suis prête à les accepter.
Tout à fait.
C'est perverse.
C'est pervers et ça peut exister. Okay. Donc là, je parle dans le cadre d'une relation où il y aurait quelqu'un de malsain entre les deux. Mais qu'est-ce qui se passe aussi si nous sommes dans une relation saine avec deux personnes équilibrées qui se respectent ? Moi, je pense qu'il est important d'oser poser ses besoins, exprimer ce que l'on ressent pour améliorer la relation si à un moment donné, ça ne fonctionnait pas comme on l'entendrait. Voilà, c'est oser dire, voilà ce que je ressens quand tu me dis ça, voilà ce que j'ai ressenti dans cette situation. Et là, on est du coup dans le conditionnel. C'est moi, j'ai envie de continuer, peut-être, si tu es capable d'entendre ce que je ressens et si tu es capable d'accepter qu'il faille peut-être que ce soit autrement pour qu'on reste dans un amour sain et équilibré. Dites-moi.
Non. Moi, c'est que j'imagine nos auditeurs qui sont en train de nous entendre et qui sont dans cette situation-là. Il y en a qui expriment facilement leur désaccord, voire même trop parfois. Voilà, là, ça ne me va pas ça, tu as fait ça, tu as fait ci, dans le reproche, même toujours dans l'accusation. Là, c'est pas bon non plus, Alice, on est d'accord. Mm-hmm. Dans l'extrême, on n'est pas. Mais c'est vrai que quand. C'est vrai qu'au départ. Là, par exemple, j'ai une personne proche qui est en train de vivre un amour inconditionnel. C'est vrai que tout va bien. C'est dans le meilleur du monde. Là, c'est vraiment l'extase. Toutes les cases sont cochées, qu'elles soient relationnelles, corporelles, tout ce que vous voulez, tout est OK. Et c'est vrai que là, on est en train d'arriver dans la phase où on se rend compte de quelques petits points qui ne vont pas. Mais comme on n'a pas envie de perdre cette relation, parce que ça fait très longtemps qu'on la recherche... on les met entre parenthèses. On se dit, bon, mais c'est pas très grave.
Vous voyez ? On les minimise, oui.
Voilà, on les minimise. Donc, en les minimisant, on les met de côté, on fait comme s'ils n'existaient pas, mais ça nous dérange quand même, puisqu'on les a remarqués. Mais on se dit, de toute manière, on ne peut pas avoir la personne parfaite.
Non, elle n'existe pas.
Donc, c'est pour ça que je les accepte. Est-ce que vous voyez...
Tout à fait.
Est-ce qu'il est normal, Alice, d'aller dans ce...
Alors, l'amour sain aussi, c'est d'accepter les qualités et les failles de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'amour inconditionnel, oui, ceci en fait partie. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il existe réellement un amour de couple sans qu'il y ait d'attente ou de retour possible ? Oui, sans attente et sans retour, même si on aime la personne, même si on a des attentions, même si on se donne énormément pour lui et pour elle, et qu'on le fait sans que la personne nous renvoie l'appareil, quelque part, on a envie que cette relation soit équilibrée. C'est-à-dire que si nous donnons, on va dire, 11 mois de l'année, que la personne nous renvoie la balle juste un mois de l'année, même si on n'est pas en amour inconditionnel, il est légitime de se dire, moi, je ne trouve pas que cela soit complètement harmonieux. Donc effectivement, on peut accepter que l'autre ne fonctionne pas comme nous, mais il est important d'aller le poser au sein de ce couple, voir comment faire pour que tout le monde se sente en accord et en équilibre dans la relation. C'est vraiment de ça dont il s'agit aussi.
Vous pensez pas que ça pourrait... Moi, je sais que la personne, par exemple, que je vous donne en exemple, elle aurait peur que ça
vienne biaiser la
voilà,
relation.
Voilà, exactement.
Alors, bien évidemment, on n'a pas à dire de suite ce qui nous dérange de façon brutale. Il faut aussi être fin et bienveillant. C'est comme vous dites, c'est de le mettre de côté et attendre peut-être que la situation ou que cette émotion, ce ressenti négatif revienne pour oser dire à la personne, voilà ce que je ressens lorsque cette situation se passe ou lorsque tu dis telle phrase ou autre. Vous voyez, comme on dit toujours, c'est partir de soi pour exprimer à l'autre, pour que l'autre puisse
mon
l'entendre.
Ressenti.
Voilà mon ressenti. Peut-être que pour toi, c'est peut-être normal, légitime de dire ça ou de faire ça de telle façon. Moi, je ne suis pas toi. On n'a pas la même histoire. Et moi, je t'avoue que ce n'est pas pour moi l'idéal d'entendre ça ou de vivre cela. Et voir ensuite comment on peut composer ensemble pour que malgré tout, on puisse continuer à être équilibré et en harmonie dans la relation.
Oui, c'est j'espère le conseil qui peut être pour tous, puisque vraiment on a toujours ces craintes là au départ, vraiment de tout gâcher, voilà. C'est tellement beau au départ, tout va bien, qu'on n'a pas envie de gâcher, Alice, vous comprenez. On a envie que cette sensation dure longtemps, mais on sait que de toute manière, elle n'est pas comme ça.
Non, elle n'est pas comme ça. Et cet fait de tout accepter, de tout pardonner, oui, ça peut être de la bienveillance, mais quelque part, je pense qu'on s'éloigne de soi. À trop vouloir donner à l'autre, accepter de l'autre, finalement, on se met un petit peu en berne et à un moment donné, il y aura conflit entre soi et soi ou avec l'autre. Parce que comme vous dites, on n'en parle pas, ça gangrène, et de quelle façon ça sortira.
Oui, après, c'est vrai qu'à un moment donné, de toute manière, ce point-là va ressortir. C'est une évidence.
Oui,
surtout quand, on va dire, on descend un petit peu du nuage au bout d'un moment.
C'est ça, parce que ça peut donner des comportements inappropriés. L'autre ne comprend pas pourquoi ce jour-ci précisément on a réagi ainsi, mais peut-être parce que ça fait des mois ou des années que l'on porte sur soi, et le jour où ça sort, ça sort mal, quoi.
Dans cet amour, c'est sûr, mais dans cet amour inconditionnel, on le voit bien, il est presque normal, il est tout à fait légitime de le commencer ainsi, dans cette relation de sentiments. S'il n'est pas comme ça, Alice, est-ce que c'est un problème d'ailleurs ?
C'est-à-dire, reposez-moi la question.
C'est-à-dire que on se dit que tout dans la normalité, l'amour qui devient voilà dans ce départ de relation, l'amour inconditionnel est logique puisque on est dans la pleine phase de l'épanouissement, du démarrage de cette relation, donc tout va à flot. Pas tout à flot, au contraire, tout va justement en profusion de sentiments au point d'accepter l'inacceptable dans cet amour inconditionnel. Mais est-ce qu'on peut démarrer une relation sans justement avoir ce sentiment d'amour inconditionnel ?
Oui, ça existe.
Et pas pour autant qu'il soit pas important après ?
Non, parce qu'il y a des personnes, on va dire, qui sont différentes émotionnellement parlant, qui sont prudentes aussi, et qui ne laissent pas la place, même dès le début, à cet amour inconditionnel.
Presque par peur, quelque part ?
Oui.
Par protection ?
Oui, c'est une protection. C'est leur mode de fonctionnement, mais qui est défensif. Oui.
Et ils ont tort ?
C'est compliqué à dire. C'est compliqué à dire parce que C'est compliqué à dire. Parce que, comme on dit, la norme ou la pression sociétale, ce qu'il est dit, c'est qu'au début, les premiers mois, les premiers moments doivent être tout feu, tout flamme et oui. autres. Mais certaines personnes ne sont pas conditionnées ou structurées de cette façon-là et ont un départ plutôt calme. Ça restera peut-être tout le temps calme et neutre ou il pourrait y avoir des moments, on va dire, d'euphorie. C'est pas forcément mauvais en soi. Hein. Faut que ça, le tout, en fait, faut que ça convienne aux deux personnes.
C'est ça.
C'est ça le principal.
Voilà, en fait, y a, de toute façon, il n'y a pas de règle.
Hein. Non.
Voilà, on n'est pas...
Parce qu'il faut savoir ce qu'on est capable de faire dans l'excès d'amour, dans le côté positif de l'amour. Se pose la question de dire, oui, si elle ou elle fait dans l'excès d'amour, mais qu'est-ce qui va se passer à la rechute ? C'est-à-dire, est-ce que la personne va être capable d'être excessive aussi dans son rejet ? Et lorsqu'il y aura conflit. Vous voyez, c'est toujours moi la petite question que je me pose quand c'est quelquefois très beau, voire trop beau au début. Est-ce que la descente peut être aussi vertigineuse que la montée du début ?
Eh oui, ça c'est un peu aussi ce qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut en dire encore, Alice, dans l'amour inconditionnel entre... je pense qu'on en a fait...
Alors pour moi, cet amour ne doit pas exister dans un lien conjugal, dans un lien de couple. Cet amour ne doit pas être, ne peut pas être, parce qu'il engendrera forcément de la souffrance.
Alors, j'ai envie juste de préciser. C'est pas parce que vous dites amour inconditionnel que ça ne veut pas dire...
sain, équilibré, harmonieux, heureux.
Mais dans la profusion des sentiments, ce que je veux vous dire. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous êtes en train de dire la phrase juste avant, l'amour inconditionnel ne doit pas être bon dans une relation... C'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'aimer, mais passionnellement, on est d'accord.
Bien sûr que non, non, non.
Ça n'a rien à voir.
C'est dans une relation, on va dire, établie, stable, on va dire, sur du moyen ou du long terme. Si cet amour inconditionnel existe, il y aura forcément un des deux qui souffrira.
Elle nous a fait piller.
Non, mais non, je suis en train de vous dire que justement, il est nécessaire et c'est complètement, on va dire, légitime d'avoir justement, c'est, l'amour évolue, genre les relations évoluent. Au début, comme vous dites, c'est tout feu et tout flamme. Après, pas parce que ce n'est plus aussi peut-être fun ou tout flamme que ce n'est pas bon. Moi, c'est plutôt ce message-là que je veux dire. C'est quelque chose de légitime, naturel, à un moment donné, de ne plus être peut-être dans cette passion, dans cet excès, on va dire, d'idéal. Mm-hmm. Finalement, c'est encore plus beau de se dire, je sais comme tu es. Je t'accepte comme tu es, puis on va faire en sorte que ça se passe bien. Moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de vous dire.
Bon, ça va. Et c'est pas pour autant qu'on vous dit pas d'aimer fusionnellement, passionnément.
Ne contrôlez pas l'amour, ça se contrôle pas, bien évidemment.
Ah, ça, super, Alice.
Ah non, laissons-nous aller.
Laissons-nous aller.
Ne contrôlons pas nos sentiments.
Bon, ça va.
Bien évidemment que non,
Jennifer. C'est juste qu'il y a cette nuance, cette frontière qui fait qu'à un moment donné, cet amour inconditionnel qui, franchement, quand on le dit, le mot ne paraît pas un aspect négatif quelque part, parce qu'on se dit inconditionnel, c'est vrai, c'est sans condition. Alors on se dit il est sain, puisqu'il est sans condition, on aime presque plus que ce que l'on s'aime nous-mêmes. Mais justement, c'est là le danger.
Est-ce que c'est légitime d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même ?
Voilà. Et c'est là... c'est là tout le défaut et tout le problème, Alice. Donc, voilà, ça. Au point d'accepter l'inacceptable. Alors, on va dire dans des situations plus classiques.
Voilà, tout à fait, sans aller dans le drame. Hein.
Sans aller dans le drame, évidemment, dans le drame, on n'en parle même pas. C'est même pas abordé. Voilà. Alice, je crois que voilà, on arrive presque au terme. Il nous reste quelques minutes. Dans ce message d'amour inconditionnel, oui. On a vu voilà, qu'il n'est pas néfaste entre un parent et un enfant.
Bien au contraire.
Mmh. Et que vous nous avez donné quelques conseils justement pour exprimer tout cela. De toute façon, c'est encore une fois basé sur la communication, des sentiments et tout ce qu'on a vu en début d'émission. Et voilà, à travers la relation donc d'un couple, de se dire que attention, voilà, on ne peut pas confondre cet amour passionnel, fusionnel, avec un amour inconditionnel qui est hors limite.
Tout à fait, j'ai envie de dire, si ce n'est pas parfait, tant mieux, c'est que vous êtes objectif, et que vous êtes capable, malgré tout, de rester avec la personne en acceptant ce qui peut quelquefois ne pas nous convenir complètement. Et c'est ça aussi, aimer quelqu'un. Et c'est beau.
Et c'est beau. Et voilà. Comme vous avez dit, ne vous retenez pas. Donc, ne commencez pas à calculer à quel niveau vous êtes de vos sentiments. Non. Laissez-vous aller. Juste, voilà, faites attention pour vous-même de ne pas accepter ce qu'il y est impensable. Voilà, au départ, on le fait parce qu'on est un petit peu dans l'extase, dans le début. Voilà, je vous dis, c'est cet amour volcanique. Je le vois. J'ai quelqu'un qui le fait en ce moment même. Mais à un moment donné, la redescente, c'est pas parce qu'il y a une redescente, ça veut dire qu'il n'y a plus de sentiments.
Et c'est pas la redescente, voilà. N'est pas forcément brutale. Hein. Elle se fait de façon très naturelle et quelquefois de façon très harmonieuse, hein, Jennifer. Hein.
Exactement.
Je dis pas qu'on est haut et qu'on.
Mais c'est juste que c'est des points qu'il ne faut peut-être pas mettre de côté au point de ne pas du tout les exprimer, car à un moment donné, ils vont poser défaut, c'est une réalité.
Voilà, c'est aussi du coup se faire confiance et faire confiance à l'autre.
À l'autre.
Que d'oser lui dire ce qu'on ressent.
Et de qui nous écoute et que nous, on est capable aussi de l'écouter. Encore voilà, une fois, l'échange, ça. La communication, tout toujours pareil, Alice. Mmh. Bon, communiquez-nous vos coordonnées, Alice, puisqu'on est dans la communication.
Avec grand plaisir. Donc, vous pouvez me retrouver à mon cabinet de Saint-Cyr-sur-Mer, qui est donc sur la promenade de la Rambla. Pour me contacter, vous pouvez m'appeler au 06 48 72 79 97 ou via ma page Facebook, Alice, le compte psychanalyste, sur lequel bah, vous pouvez voir mon actualité et au cas où me contacter si vous en avez besoin.
Et voir également aussi donc, toute l'actualité, les ateliers qu'Alice mène, qui
formations.
Sont voilà, très très intéressantes et sur lequel vous pourrez encore plus vous informer, encore plus que ce que nous venons de faire durant une heure dans cette émission Alice et vous. Alice, merci encore une fois de nous avoir un petit peu éveillé dans nos sens de cet amour inconditionnel. Voilà, au moins aujourd'hui, il a pris tout son sens à travers la relation parent-enfant, à travers la relation de couple. Comme d'habitude, on vous remercie.
Mais
et on se retrouve vendredi prochain.
Pour votre confiance. Merci, bon week-end. À bientôt.